Bien, pour le cours de disciple, c'est en fait c'est une reprise, hein, parce que on avait déjà commencé sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors sa personne, le passage important se trouve dans l'Épître aux Philippiens, c'est le chapitre 2. Et c'est à partir du verset 5. Alors je peux lire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà. C'est vrai que ce passage, c'est le passage le plus important, c'est celui qui nous donne toute la direction pour la doctrine de Jésus-Christ. Il y a comment dire, c'est du condensé, parce qu'en fait, dans d'autres passages, on trouve de plus grands développements, mais sur des points précis, tandis que sur celui-là, eh bien, on a des idées qui sont rassemblées. Donc on voit que on a vu sa préexistence, il existait avant, hein. Il existait en forme de Dieu, donc il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. C'est l'incarnation. Et puis il s'est dépouillé lui-même, il s'est dépouillé de ses attributs divins. C'est pas que Jésus-Christ a cessé d'être Dieu. Il a toujours été Dieu, mais il a mis de côté ses attributs divins pour pouvoir vivre au milieu des hommes. Et il dépendait entièrement des attributs divins du Père pour pouvoir mener sa vie humaine et sa vie de rédempteur sur la terre. Donc c'est très important de savoir cela. Et puis ensuite, il était un véritable homme, donc il s'est présenté, hein, ayant paru comme un simple homme. Donc il était entièrement homme. Sa vie humaine était une vie d'homme. Il a mangé, il a bu, il a dormi, il a été fatigué, il a eu faim et il a eu même des angoisses. Il a connu toutes ces difficultés humaines. Et puis, ensuite, on trouve sa mort sur la croix, c'est-à-dire qu'il s'est humilié, il est descendu encore plus bas, il s'est humilié jusqu'à prendre nos péchés et puis à devenir semblable aux pécheurs. Quand on le regarde, on voit qu'il est accablé sur la croix de nos péchés, il porte nos péchés. Il est devenu péché à cause de nous, c'est ce qui nous est dit, hein. C'est Paul qui dit cela aux Corinthiens. Il dit, il est devenu péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc on voit le déroulement de sa vie, sa personne, ce qu'il est, ce qu'il a été et ce qu'il est pour l'éternité. Alors, et ensuite, une fois qu'il est mort sur la croix, qu'il a pris nos péchés, nous a rachetés de nos péchés, eh bien, il est ressuscité. C'est le verset 9, hein. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et après sa résurrection, il a été élevé. Le Père, c'est dans l'Épître aux Hébreux, il nous a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, une fois qu'il est monté au ciel, c'est l'ascension. Il est arrivé devant son père et là, il s'est assis à sa droite. Et il est même notre intercesseur. Il est celui qui parle de nous auprès du Père. Quand Satan vient nous accuser, eh bien, le Seigneur Jésus prend notre défense. Il est à la droite du Père pour nous, pour que nous puissions être défendus. Parce que Satan est l'accusateur qui vient constamment nous accuser et il a de bonnes raisons de nous accuser. En fait, si on regarde bien, nous sommes des pécheurs. Il y a des choses que nous accomplissons qui sont mauvaises. Et Satan trouve de bonnes occasions de parler mal de nous à Dieu. Et Christ, eh bien, est notre Rédempteur. Il nous a rachetés et il est à la droite du Père. Alors que Satan vient nous accuser et porter des accusations contre nous, eh bien, le Seigneur Jésus nous défend. Et il nous défend parce qu'il a payé à notre place. La dette est payée. Alors, Satan a été vaincu à la croix. Et il est vaincu une nouvelle fois parce qu'il présente des accusations qui n'ont plus de raison d'être. C'est fini. Toute cette question-là, elle est réglée. Nos paiements sont à jour. C'est fini. Satan. Dieu tolère qu'il vienne nous accuser. Et c'est vrai qu'il y a une accusation, elle est bien réelle, et il y a de réels péchés. Nous avons fait de réelles choses mauvaises après notre conversion. Mais le sang de Jésus-Christ nous purifie de chaque péché. Il n'y a pas un péché. C'est vrai que j'aime bien le verset de 1 Jean. Il est dit, et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Mais en fait, on peut dire chaque péché. Il n'y a pas un qui est trop gros, ou qui est trop petit, ou que l'on peut négliger, ou que l'on ne peut pas espérer le pardon, nos péchés sont entièrement effacés. Notre dette est payée d'une manière totale et définitive. C'est complet. Et quand le Seigneur Jésus est auprès du Père, eh bien c'est un garant, c'est le garant de notre réconciliation, et c'est le garant de notre justice quand nous sommes accusés, eh bien. Tout ça, c'est réglé, c'est fini. Mais il y a bon, je vais un peu plus loin que sur le Seigneur Jésus, c'est peut-être l'occasion. Mais il y a aussi parfois notre méticulosité. On est un peu trop précis. Et il y a des personnes, hein, et je suis parmi ces personnes, je me culpabilise très vite. Une petite chose qui paraît pas grand-chose pour les autres, eh bien pour moi ça devient une montagne très 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 vite. Alors ben même là, je dois accepter que le pardon est accompli, qu'il est achevé. C'est même dans si on a une conscience sensible, trop sensible, eh bien on doit accepter que le pardon est accompli. Et ça, c'est un acte de foi. Il faut regarder à Christ, à celui qui nous a rachetés, à notre Rédempteur. Et puis, il y a aussi l'accusation des autres. C'est le regard que les autres portent sur nous. Et parfois, c'est un regard terrible, hein. Et les paroles qui sont prononcées, eh bien, et que nous prononçons aussi sur les autres, parce que c'est pas seulement, hein, il faut pas toujours jouer la victime, mais parfois, ce sont les autres qui sont victimes et on porte des jugements sévères. Eh bien, le sang de Jésus-Christ a coulé. Il a effacé les péchés. Alors c'est vrai que les personnes ne sont coupables, elles ont fait des actions que l'on doit reprendre et on doit dire c'est mal. On se joint à la justice de Dieu pour dire cette action-là est mal. Ça ne se fait pas. Mais d'un autre côté, il faut savoir que le sang de Jésus-Christ a coulé aussi pour cette personne. Et si la personne est sauvée, qu'elle est née de nouveau, eh bien le sang de Jésus-Christ est là pour effacer chacun de ses péchés. C'est la puissance et la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Malheureusement, dans nos milieux, on ne médite pas suffisamment ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix. On parle beaucoup du sacrifice de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ est mort sur la croix, et le salut des perdus, des inconvertis. Mais après, ce qui vient après, souvent, eh bien, ça passait sous silence. Voilà, c'est fini, la personne est sauvée et c'est bien, mais on ne lui donne pas des directives et on ne lui montre pas à quel point il est sauvé et jusqu'où va son salut. Comment il est comment dire, gracié d'une manière totale et définitive et il suffit qu'il mette sa vie en règle à chaque fois que les choses ne vont pas, Et il peut continuer et retrouver la paix avec Dieu, une paix parfaite. Et si bien que beaucoup de chrétiens restent stagnent dans leur vie chrétienne parce qu'ils n'ont jamais vraiment accepté d'être pardonnés. Et eux-mêmes ne se pardonnent pas. Ça aussi, c'est une autre question, hein. On s'est déçus. Voilà. Il y a des chrétiens qui se sont déçus, alors ils ont du mal à se pardonner. Et s'ils avaient commis certains péchés, ils se pardonneraient plus facilement. Mais certains, les autres, ce qu'on appelle hein, improprement de gros péchés, eh bien, on ne se les pardonne pas. Et il y a des situations, même dans les églises, où certains péchés sont, on accepte facilement le pardon, mais d'autres, eh bien, on ne l'accepte pas. La personne est coupable, coupable. On ne l'absout pas. J'ai remarqué parfois, et j'ai eu l'occasion de parler avec des responsables, grands responsables qui étaient très pointilleux sur ces choses-là, eh bien, d'avoir écrit une lettre. Et le responsable m'a dit, j'ai rien compris à ta lettre, j'ai rien compris. Mais en fait, je lui disais, si la personne tue, vous allez l'accepter. Mais si elle est divorcée, vous ne l'acceptez pas. Et parfois, il y a des gens qui sont divorcés et ce n'est pas eux les coupables. Ils sont divorcés parce qu'ils sont victimes. Et vous ne les pardonnez pas. Vous ne les acceptez même pas dans l'église. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans l'église. C'est tandis que quelqu'un qui a tué et qui vient et qui peut s'asseoir, vous l'accepterez. Et je dis, vous faites une discrimination par rapport à ces choses. Et la personne m'avait dit, ta lettre est incompréhensible, c'est un charabia que je ne comprends pas. Voilà. Pourtant, bon, c'était clair. Il y a une discrimination, il y a péché et péché. Alors c'est vrai que on a du mal parfois à se pardonner. Mais le sang de Jésus-Christ couvre chaque péché. Il efface chaque péché. Et c'est pour ça que j'aime bien le dire, ce verset de 1 Jean 1, 7. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de chaque péché. Parce qu'on dit tout péché, mais en fait, c'est beaucoup mieux parce qu'on peut le traduire comme ça, de dire chaque péché. Et donc, nous avons un rédempteur, un sauveur, quelqu'un qui nous a sauvés. Et c'est il est ressuscité, il est mort sur la croix, il est ressuscité. C'est un rédempteur. Nous, on a les mots, on a la doctrine, on a parfois la bonne doctrine, mais en fait, la réalité de la chose nous passe à côté. On ne prend pas possession de ce que Dieu nous a donné, parce que c'est un salut vraiment accompli. C'est vraiment quelque chose qui est fait d'une manière définitive et complète. Et malheureusement, les chrétiens, je connais beaucoup de chrétiens timorés qui restent sous le poids de la culpabilité. Ils sont tombés, ils se sont déçus, mais la parole de Dieu nous rassure que le Seigneur Jésus, eh bien, nous a pardonnés. Nous sommes lavés de nos péchés, nous sommes réconciliés avec lui d'une manière totale et définitive. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose que nous avons besoin d'apprendre et de recevoir d'une manière sérieuse et concrète parce que c'est sérieux, c'est concret, parce que c'est Dieu lui-même. Si Dieu lui-même dit que cette personne-là, il n'y a plus de dette, alors il n'y a pas de raison que un être humain, quel qu'il soit, retienne la dette d'une autre personne et dise, cette personne, elle est encore coupable. C'est Dieu qui a pardonné. Il a pardonné d'une manière définitive, et il a pardonné au prix du sang de son Fils. Et c'est la valeur du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est donc pour cela que je dis, on minimise beaucoup la rédemption dans les faits. Parce que dans la doctrine telle quelle, on l'accepte et on dit, ben voilà, c'est une doctrine que je reçois parfaitement. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et on ne remet pas en question la doctrine en elle-même. Mais dans la pratique, eh bien, on ne va pas jusqu'au bout de la doctrine. Et c'est bien beau d'avoir ça inscrit dans notre confession de foi, que nos péchés sont tous pardonnés en Jésus-Christ, mais après, dans la réalité de la vie quotidienne, ça doit être appliqué. Ce n'est pas une théorie, c'est une vie. C'est les choses, la parole de Dieu, elle est éminemment pratique. C'est si vous lisez vous la lisez, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de théorie, hein. Il y a beaucoup de pratiques et beaucoup de commandements, c'est-à-dire agir. C'est s'il est dit prier sans cesse, eh bien il faut agir. Ça nous incite à agir. On peut pas ne pas obéir aux commandements. Si Dieu, c'est pas, on dit ben voilà, le chrétien, on peut faire un grand discours sur la prière sans cesse. Mais les grands discours ne servent à rien s'il n'y a pas les faits, si on ne vit pas ces choses-là. Donc ça, c'est très 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 important. Donc le Seigneur Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu et il régnera pour l'éternité. Son règne n'a pas de fin. Il a un nom au-dessus de tout autre nom. Personne ne peut imaginer. C'est déjà quand il était au milieu, disons, avant qu'il s'incarne, l'incarnation, hein, il préexistait. On le retrouve dans l'Ancien Testament, on en a parlé. Et pendant qu'il est dans l'Ancien Testament, il est parlé de l'ange de l'Éternel. Et dans un épisode, là où l'ange de l'Éternel est apparu pour l'annonce de la naissance de Samson, c'est le mari de Manoac, hein, qui a demandé quel est ton nom? Alors il a dit, mais pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il n'y a pas donné le nom. Il est merveilleux. C'est un nom au-dessus de tout autre nom. Parce que c'est l'ange de l'Éternel, c'est Christ. C'est le nom au-dessus de tout autre nom. Et même après sa résurrection, après son triomphe sur le péché et sur Satan, sur la mort, il est ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu. Et là, il a un nom encore plus élevé. Un nom au-dessus de tout autre nom. Avant, il avait un nom merveilleux. Mais maintenant, il a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sous la terre, sur la terre, partout. Rien ne pourra pas fléchir le genou devant le Seigneur Jésus. Parce que son nom est celui du vainqueur, de celui qui a triomphé de la mort, qui a triomphé de Satan, qui a triomphé du péché, qui a triomphé du monde. Et il a pu dire à ses disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est une grande parole, vous savez. Le monde paraît très fort, hein, mais il est vaincu. C'est la parole du Seigneur Jésus, il l'a dit. Et c'est un nom au-dessus de tout autre nom. C'est quand nous marchons, que nous avançons, que nous vivons la vie chrétienne, c'est au nom du Seigneur Jésus. Il a dit, vous n'avez jamais rien demandé, mais priez, demandez en mon nom. Demandez en mon nom. C'est le nom qui dépasse tout autre nom, au-dessus de tout autre nom. Je sais pas, je me présente dans un endroit et je dis, voilà, je voudrais avoir un petit avantage sur certaines choses, mais on va me dire, mais qui vous êtes pour demander cela? Est-ce que vous avez une revendication, un droit? Après, pour ce. Ben, non. Mais si je dis, je viens au nom d'un tel qui est. Alors, c'est un nom, hein, un grand nom. Je viens au nom d'un tel pour obtenir ceci. Ah, là, ma demande est prise en considération. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, vous venez en mon nom auprès du Père. Vous n'êtes pas vous-même, hein, votre propre. Si vous arrivez tout seul, vous êtes des pécheurs, vous êtes perdus. Vous êtes dans la culpabilité. Dieu est obligé de juger. Mais si on vient en son nom, alors on obtient. C'est très important de se rappeler que le nom de Christ est un nom au-dessus de tout autre nom. Et que tout genou va fléchir. Et je peux vous dire, commencez-vous par fléchir le genou. Parce qu'un jour, il fléchira. Et je sais qu'il y a des gens, je me rappelle d'une jeune fille, elle disait, moi, quand je prie, je ne ferme pas les yeux, je ne baisse pas la tête. Oui, regarde droit. Et jamais se serait mis à genoux. Hein. Mais ben voilà, oh ben sa vie est partie dans le décor, comme on dit. Hein. Elle a beaucoup d'argent, beaucoup d'avantages, hein, mais perdue complètement. C'est pas voulu fléchir le genou. Pas voulu fermer les yeux, s'incliner devant celui qui est le vainqueur, celui qui est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, celui qui a triomphé. Et il a triomphé, tout à l'heure je le disais, de Satan, du péché, du monde, de la mort, mais il a vaincu aussi dans notre vie. Il nous a vaincus. Nous sommes vaincus, nous aussi, dans notre orgueil, dans notre suffisance, dans notre indépendance de Dieu, parce que c'est ce que nous étions. Nous étions des pécheurs, et le péché, c'est un acte d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est, on dit à Dieu, ne domine pas sur moi, ne règne pas sur moi. C'est, je fais ma propre vie, je fais mes choix, et les choix, ben, c'est ce que Dieu désapprouve. C'est, donc, quand un jour, on a fléchi le genou devant Christ, et on a été vaincu, et acceptez ce mot, j'ai été vaincu un jour. Et si vous ne l'avez pas été encore, eh bien, vous trouverez encore beaucoup de rébellions et beaucoup de paroles amères contre Dieu et beaucoup de revendications. Et vous avez des chrétiens qui parlent dur hein, contre Dieu. Et ils ont été rachetés pourtant, ils sont lavés de leurs péchés. Oui, mais Dieu n'exauce pas les prières. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens avec une bouche que je me suis dit, mais on n'a pas besoin des inconvertis pour dire des choses pareilles. Hein. On les a dans l'église, ce sont les chrétiens, les frères et sœurs. Mais parce qu'ils n'ont pas été vaincus, ils n'ont pas accepté que Christ est le vainqueur, et que tout genou doit fléchir devant lui. Il est notre. Et s'il y a des genoux qui doivent fléchir avant les autres, c'est les nôtres. Moi, je n'attends pas que le diable soit vaincu. Il est vaincu, c'est vrai. Mais il fléchira le genou. Mais je préfère fléchir le genou avant, et avoir commencé. Parce que c'est ce qui va arriver. C'est ce qui est dit hein, ici. C'est afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire le Maître, celui à qui on obéit. On ne discute pas ce qu'il dit, on fait ce qu'il dit. Et tout ça à la gloire du Père. Et c'est tout le déroulement de ce qu'on appelle la christologie. Voilà. Mais la christologie, et comme toutes les doctrines, eh bien, doit se traduire dans la vie. On n'a pas simplement une philosophie chrétienne. C'est parce que souvent la doctrine, ce sont des énoncés de règles, et on dit, ben, j'y crois. Voilà. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. C'est très bien. Et Jacques nous répondrait, le diable y croit aussi, et il tremble. Mais toute vérité que nous connaissons et que nous ne nous approprions pas, dont on ne prend pas la mesure dans notre vie, eh bien, est un jugement pour nous. Parce que c'est la vérité, mais on ne prend pas les dispositions pour justement que cette vérité soit appliquée dans notre vie. Ah ben, on dit, on est sauvé, je suis sauvé. Oui, mais est-ce que je fléchis le genou devant Christ ? Est-ce que Christ est le Seigneur de ma vie ? C'est ça aussi. Parce que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce n'est pas simplement de le dire, eh ben Seigneur. On confesse qu'il est Seigneur, c'est-à-dire il est mon Seigneur. Il est celui qui domine dans ma vie. Celui qui a le règne dans ma vie. Celui qui a l'autorité dans ma vie. Ça, c'est très important. Le Seigneur Jésus disait, hein, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. » Je veux dire, il y a des chrétiens hein, qui peuvent dire Seigneur. Hein. Mais en fait, dans leur vie, Jésus-Christ n'est pas le Seigneur. Le péché est le Seigneur. Le monde est le Seigneur. Le dernier match de foot, c'est le Seigneur, oui. Mais pas Jésus-Christ. Il n'a pas pris la première place. Ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour Christ. Ils ne mettent pas Christ en avant, toujours. Si les chrétiens faisaient des sacrifices, vous savez, le monde serait différent. C'est parce que les chrétiens ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Seigneur que les choses vont si mal dans ce monde. Parce que les chrétiens ne prient pas, ne cherchent pas Dieu. Ils vivent comme le monde. Il y a certains chrétiens, si on ne savait pas qu'ils sont chrétiens, on pourrait se poser la question s'ils ne sont pas du monde. Parce qu'il n'y a rien qui reflète la vie de Christ dans leur vie. Rien. C'est leur vie est totalement identifiée à celle du monde. Ils pensent aux mêmes choses que le monde. Ils attendent les mêmes horaires que le monde. C'est le temps tourne. Voilà, les fêtes sont passées. Ils étaient dans le monde. Eh bien, ils attendent les prochaines vacances. Et aux prochaines vacances, ils vont faire exactement comme le monde. Ils ont les mêmes projets que le monde. Ils ont les mêmes aspirations. Ils ont les mêmes soucis que le monde. C'est après, il faut pas dire que Jésus-Christ, pour eux, est Seigneur. En théorie, oui. Mais pas dans la réalité. Jésus-Christ Seigneur, c'est on est consacré, on est engagé. Il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. C'est on fléchit le genou devant lui et on dit Seigneur, dirige ma vie, conduis mes pas, ta volonté, pas ma volonté, pas mes plans, tes plans. Voilà. C'est très très important de d'avoir la doctrine dans sa vie. C'est pas d'avoir des théories.